premier rendez-vous, Pauline Vrolix.
Un après-midi de personnalité, une première rencontre, toujours singulière. Notre première invitée est une femme multiple dans ses talents et ses origines. Née à Genève d'un père russo-argentin et d'une mère suisse, c'est à Lully, proche de Genève et à Fribourg qu'elle grandit. Jeune femme, elle se lance dans des études universitaires, philo et droit, sans grande conviction. Ensuite, elle enchaîne au conservatoire de Lausanne. Ce qui l'intéresse, c'est la psyché, le pourquoi d'une personnalité, la construction de l'identité. Des thèmes qui reviennent dans son travail de création largement salué. À son palmarès, 16 pièces de théâtre et 8 prix d'écriture. Si vous avez pu la voir à la télévision, sur la TSR de l'époque, dans Fax Culture, Popcorn ou Lire des Lires, vous aurez plus de chances de la croiser aujourd'hui dans son cabinet de coaching. Formée à l'analyse transactionnelle et à l'hypnose, elle accompagne adultes et enfants dans des phases clés de leurs existences. Également directrice d'ateliers d'écriture, cette jeune quadra au regard profond, mais dans toutes ses activités, sa touche magique, sa touche d'imagination, le pouvoir de l'imagination. Notre deuxième invité est un presque inconnu et lui ne le sera bientôt plus. Ce soir, à 20h10 sur RTS1, il est la vedette du film de Lionel Bayer, Prénom de point Mathieu, qui retrace le parcours d'un jeune homme rescapé des griffes du sadique de Romont, le plus terrible des tueurs en série de Suisse, ayant sévi ici dans les années 80. Une performance très convaincante pour ce jeune homme de 30 ans, originaire des Hautes-Pyrénées françaises, formé à la Manufacture de Lausanne, ainsi que dans des écoles de théâtre toulousaine. Avant sa formation d'acteur et de comédien, ce garçon aux cheveux ondoyants s'est frotté à l'univers éreintant des cuisines. À Londres plus précisément, où de plongeurs fraîchement débarqués, il passe rapidement à chef cuistot. Une expérience du concret, subitement abandonnée, qu'il ne regrette pas un instant et qui lui sert de repère. Notre première invitée est Sandra Corolle, notre deuxième invitée est Maxime Gorbatchevski. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour Maxime Gorbatchevski.
Bonjour Pauline.
Bonjour Sandra Corolle.
Bonjour.
Bienvenue à vous deux. On commence tout de suite avec vous Sandra Corolle. Racontez-nous une première rencontre qui vous a beaucoup touchée.
Un premier rendez-vous, une première rencontre, oui. En fait, j'ai eu beaucoup de premières rencontres et j'ai pas réussi à choisir. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ces premiers rendez-vous ont en commun? Et ces premiers rendez-vous ont en commun déjà qu'ils n'ont pas eu lieu à la première rencontre. Le premier rendez-vous n'a pas eu lieu à la première rencontre. C'est-à-dire, je parle de ce moment où on rencontre une personne pour la 10e ou la 20e fois et d'un coup on la voit. D'un coup il y a quelque chose du masque qui s'étiole, qui se brise, la personnalité tombe aux pieds de la personne et de nous-mêmes forcément. C'est comme si on voit quelque chose de très très authentique chez l'autre. Ça peut arriver dans des moments de vie stressants, dans des face à la maladie par exemple ou face à la mort. Ça peut arriver dans des moments de grande grande joie, des moments d'éveil et d'ouverture. Et ces premiers rendez-vous, j'en ai eu un hier soir, j'en ai eu un ce matin et c'est ce à quoi j'aspire en tout cas.
Et comment vous voyez les personnes à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez en eux? Leur humanité, leur humour, leur tendresse.
Je crois que le point commun, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'œil de la personne. À chaque fois que ça s'est passé, j'ai vu qu'il y a, on dit que l'œil est la fenêtre de l'âme. C'est comme si à un moment donné, on voyait à travers l'œil une lumière qui apparaît et on voit qu'il y a quelque chose derrière la forme, derrière le personnage. D'ailleurs, persona en latin veut dire le masque. Et il y a quelque chose dans l'œil qui s'allume et à ce moment-là, ça me demande à moi aussi d'être en premier rendez-vous de moi-même. Et donc, c'est ça qui se passe, je crois.
Mais finalement, vous parlez de la sincérité. Vous parlez d'un moment d'authenticité,
ouais.
de réel. Voilà, vous voyez la personne dans tout ce qu'elle a de plus singulier.
De plus singulier, d'unique, de vulnérable aussi. J'aime beaucoup ce mot de vulnérabilité. Je trouve qu'on a tendance à être très très touché par la vulnérabilité des autres et à juger la nôtre. En fait, la vulnérabilité chez soi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on cache et vers quoi on est attiré chez l'autre. Donc oui, unicité, verticalité, c'est quelque chose d'indicible, mais ça se ressent et ça traverse tout le corps. Ouais.
Bon, j'espère que cette rencontre aujourd'hui vous permettra de vous trouver l'un et l'autre dans cette vulnérabilité et dans cette beauté-là aussi. Maxime Gorbatchevski. Une première rencontre qui vous a beaucoup touché?
Ouais, alors pareil, quoi, difficile de choisir quelle première rencontre, tout ça. Au début, je pensais parler de la ZAD à Nantes où j'étais allé faire un tour, une expérience incroyable, mais je parlerai pas de ça.
Vous nous rappelez ce que c'est la ZAD?
La zone à défendre, Notre-Dame-des-Landes, qui est en ce moment en lutte.
On va dire agressive.
Ouais, c'est agressif. Mais bon, on parlera pas de ça du coup, parce que la première chose dont je voulais parler, le premier rendez-vous, c'était mon arrivée en Suisse. C'était il y a une dizaine d'années, après que j'étais cuisinier, comme vous l'avez dit. où je suis arrivé donc pour travailler dans les cuisines genevoises. Et donc j'arrive, j'ai rejoint des amis, on était en français, Max Farren, Paul, dans le méga Renault Espace. Et j'arrive par la gare, je rentre dans le Renault Espace, c'était une voiture qu'on utilisait beaucoup à l'époque, et, qui était pleine de bordel, tout ça. Puis je rentre dedans, et puis mes amis me disent avec un grand sourire, Max, l'autre Max, donc pas moi, a la gale, donc tu dois sûrement la voir.
Ah, la gale, donc la maladie de la peau qui
voilà,
gratte,
donc,
quoi.
Super les copains, merci beaucoup. Donc on roule et puis on se fait arrêter par la police. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse, arrêté par la police, donc ils nous arrêtent.
Vous leur dites j'ai la gale, c'est pas possible, vous pouvez pas me toucher.
Voilà, donc d'abord ils commencent à me fouiller et puis j'avais un opinel, donc il y avait un problème parce qu'un opinel en fait c'est interdit. Donc j'étais là, oui, mais il faut bien que je coupe mon saucisson, comment je fais, tout ça. Et puis ils arrivent sur mon pote Max et puis au moment où ils arrivent, mon pote leur dit, moi j'ai la gale. Donc ils se reculent de 10 mètres.
Ah bah voilà, ça finit par marcher.
Et ils attendent en stand-by et puis ils nous demandent de repartir. Et puis quand on a regardé autour de nous, on était place de la Liberté.
Magnifique. Voilà. Certains sont touchés par la grâce, d'autres par la gale et ça les sauve.
Voilà.
N'est-ce pas? Une sacrée arrivée en Suisse. Aujourd'hui, vous vous sentez un peu mieux accueilli?
Ouais, mais je me sentais pas mal accueilli. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je veux dire, c'est... Mais oui, je me sens pas mal accueilli du tout en Suisse.
Vous avez une opinel toujours avec vous? Un opinel, une opinel, je ne sais plus.
Actuellement, j'ai un douk-douk.
C'est quoi un douk-douk?
C'est un couteau, une sorte d'opinel, c'est un couteau aussi un peu... Je ne sais pas trop d'où ça vient, je crois que ça vient de Maroc, peut-être, ou Algérie, je ne sais pas trop.
Pourquoi vous avez besoin d'avoir toujours un couteau sur vous?
Pourquoi j'ai besoin d'avoir un couteau? Ouais. Je ne sais pas, j'aime bien avoir un outil sur moi, peut-être, ça sert souvent à... Ça me sert... Je suis un peu bricoleur, et puis j'aime bien avoir sous la main quelque chose pour pouvoir... je sais pas, ça m'arrive de souvent avoir besoin de l'utiliser... Ouais,
un objet de défense, mais aussi de bricolardise.
Ouais,
hein,
c'est pas
on
du tout
de
défense.
Ça.
Non, c'est pas de défense du tout. Non, non.
Plutôt le côté bricoleur.
Ouais,
c'est
bricoleur.
Ça qu'on retiendra.
Non, absolument pas.
Allez, Maxime Gorbatchevski, vous avez 2 minutes pour poser toutes les questions que vous voulez à Sandra Corolle. On commence ce speed dating et c'est vous qui avez l'honneur des débuts. C'est parti.
D'accord. Alors, Sandra, donc on peut se tutoyer. Hein.
Allez,
voilà.
Très bien.
Super. Alors, en fait. Avant de venir ici dans le studio tout à l'heure, on se connaît pas donc. Mais
non.
En fait, je savais quelle tête tu avais. Puis du coup, en fait, on était assis sur le même banc sur la place dehors.
Mais il paraît, ouais.
Et je t'ai vu prendre le soleil. En fait, moi, j'étais sur le banc en face. Je prenais aussi le soleil avant de venir ici. Et t'avais un casque sur les oreilles. Et puis
ouais.
Je me demandais éventuellement qu'est-ce que tu écoutais. Est-ce que tu étais en train de te préparer pour maintenant ou pas?
Alors, j'étais en train de me préparer pour maintenant, c'est vrai. Et puis, j'écoutais de la musique épique.
Épique?
Ouais, épique. C'est de la musique de jeux vidéo, en fait.
Ah.
C'est un genre qui s'appelle épique. Ça ressemble à de la musique de science-fiction. Enfin, c'est les grandes envolées, les anges qui sautent des buildings. Enfin, voilà. C'est le genre de musique que j'écoute quand je suis face à l'inconnu, comme ça, et que j'ai besoin de me recentrer.
D'accord. Super. Et du coup, une deuxième question. T'as vu mon nom tard, t'as dit, toi, t'as gardé le ski sur ton nom.
Ouais.
Gorbatchevski. Et toi, Corolle, y a pas de ski. Donc, en fait, t'as perdu le ski sur ton nom.
Ouais, on m'a raconté ça, en fait. Effectivement, je suis allée donner un cours de théâtre une fois à Moscou. Il y avait quelqu'un là-bas qui s'appelle Corolle Leva. Et il y avait une autre personne qui s'appelait Korolski. Donc elle m'a expliqué l'origine du nom Korol, qui est russe effectivement, qui veut dire Karol, c'est le roi.
Uh-huh.
La pièce de théâtre, le roi Ubius s'appelle Karol Ubiu. Elle a dit, ah Korol, t'as dû perdre le dernier bout. C'est des ancêtres qui ont dû fuir hein, et ils se sont fait couper le dernier bout avant de sauter dans un bateau, en fait, je pense. Donc, mais bon, ça se perd dans les légendes, hein,
ouais.
Au bout d'un moment.
Tes ancêtres sont venus à quel moment
Ils sont partis, en fait, ils ont traversé l'Europe et ils sont partis en Amérique du Sud.
Ah oui.
Ouais.
Donc la Révolution aussi ou...
C'est début du XXe siècle.
Ouais.
Début du XXe siècle.
Comme ma famille, en fait.
Ah ouais.
Ah, voilà un premier point en commun. On arrive au terme de ces 2 minutes de speed dating. Mais racontez-nous alors, vous avez tous les deux des arrières ou des aïeux russes?
Bah, apparemment, ouais.
Et des chemins d'émigration peut-être un peu semblables ou pas tellement? Parce que vous, Sandra, votre père part de Russie pour aller en Argentine, se retrouver ensuite à Genève.
Oui, c'est son père à lui qui est parti d'Argentine et sa mère à lui part de Roumanie. Tout ça se perd dans les légendes et ça se perd aussi dans une histoire un peu de souffrance. Hein. Il y a des choses qu'on garde en mémoire, il y a des choses qu'on ne garde pas en mémoire, il y a des choses qu'on ne m'a pas racontées. Mais ça fait partie de ces populations juives qui ont été invitées ou qui sont parties ailleurs pour trouver le bonheur, la richesse, enfin... la sécurité. Et puis mon père, ensuite, il a fait le chemin inverse dans les années 70 vers Genève.
Et Corolle, donc le roi ou la reine, ou ouais. Enfin voilà, ce côté princier, vous le portez d'une certaine manière ou pas ? Est-ce que ça fait partie d'un bout de votre personnalité ? Vous y pensez parfois ?
J'y pense pas, mais j'attache de l'importance à l'élégance, pas vestimentaire, hein, du tout, mais l'élégance de la bienséance et la belle intention derrière les gestes et les paroles, ouais.
Alors, Maxime, pour compléter ce portrait de Sandra Corolle, j'ai une question pour vous. Que pousse sur la tête de Sandra Corolle parfois, pour mieux comprendre l'environnement ?
Je dirais des antennes.
Voilà, c'est ça. Sandra Corolle, dans plusieurs interviews, vous parlez de vos antennes.
Sérieux ?
Oui.
Ah, je suis gonflée. Dingue.
Pourquoi ?
Je sais pas, ça doit être le moment où les antennes fonctionnent et moi je suis HS peut-être. Ouais, je crois qu'on a tous des antennes, forcément. Pour moi, l'être humain est une antenne.
Mais vous avez un côté comme ça, très sensible, presque un côté presque ésotérique, non ?
Alors, ésotérique étymologiquement veut dire de l'intérieur. Mmh. Bah oui, il y a exotérique, ça veut dire de l'extérieur, puis ésotérique, c'est l'intérieur. Donc oui, j'ai un côté qui va plutôt vers l'intériorité que vers l'extérieur. Et j'aime bien aller chercher au fond des caves, dans les cavernes, que ce soit psychique ou réel.
Et vous faites guider par ces antennes ? Vous leur faites confiance ?
Ah bah oui, carrément, ouais. Sinon, c'est un coup de foudre.
Comment ça ?
Ben oui, les antennes, l'intuition et tout ça, je crois que si on ne la suit pas, en tout cas moi c'est des coups de foudre, hein, c'est des rappels à l'ordre assez secs.
Ah, si vous ne suivez pas vos antennes, mm-hmm. vous vous retrouvez comme paralysé, ankylosé ou peut-être dans de mauvaises positions, c'est ça ?
Dans une mauvaise position, ouais. Mais je ne suis pas la seule, hein. Je crois que ça arrive à de plus en plus de gens comme ça. On a plus le choix, je crois, maintenant. Il faut suivre son intuition et ce que nous dicte notre cœur.
Alors, suivez votre cœur et posez toutes les questions que vous voulez à Maxime Gorbatchevski. Vous avez 2 minutes.
Bon, Maxime, alors, je ne savais pas, hein, je ne te connaissais pas. J'ai entendu que ce soir, tu passes à la télé. Je me réjouis de voir parce que j'ai vu les autres films et vraiment, ils sont extraordinaires. Donc, je serai devant ma télé ce soir. J'ai une première question. J'imagine, enfin, je sais pas comment tu es, etc. Mais j'imagine que parfois, peut-être le mental prend le dessus. T'as peut-être une agitation comme ça. Ça sème le doute. Dans, je sais pas. Comment tu fais pour te poser ? Qu'est-ce que tu as comme rituel pour te calmer ?
Pour me poser, j'ai du mal à me poser en fait. Déjà, ouais. Pour me poser, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de rien faire en fait, de rien prévoir. Et j'y arrive pas trop en fait. C'est difficile. Difficile de réussir à avoir des temps vraiment où rien n'est prévu, quoi. Mais je pense que c'est ça, la meilleure manière pour moi de me poser, c'est de surtout ne pas savoir ce que je vais faire la semaine prochaine.
Ok. Et t'arrives à vivre avec cette dose d'incertitude, alors ?
Eh ben, je sais à peu près ce que je fais la semaine prochaine, la semaine d'après. Quand ça se présente, c'est ça que j'adore, quoi.
Ah ouais, ouais. Ok. Ouais. Ça te relaxe.
Ah ouais, ouais.
Ok. Si la peur n'existait pas, tu ferais quoi ?
Si la peur n'existait pas, qu'est-ce que je ferais ? Oula, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que je ne durerais pas longtemps.
Ah ouais ?
Ouais, je pense que sûrement, je ferais un saut d'un pont, un truc comme ça. Mais par plaisir, pas par... si la peur n'existait pas, ouais, je pense que je serais peut-être pas encore vivant.
Tu prendrais des risques ?
Ouais, je pense. Mm-hmm. Parce que je suis assez prudent, en fait, parce que j'ai pas trop envie de mourir.
Mm-hmm. Mm. C'est quoi le dernier risque que tu as pris ?
Dernier risque que j'ai pris. Ah oui, je me suis fait jeter des bouteilles en verre dessus. Pour un travail que je fais en ce moment.
Des vraies bouteilles de verre ?
Ouais, des vraies bouteilles en verre, ouais. C'est vrai que puis en fait, après coup, évidemment, c'était un peu risqué, quoi.
Mais dans quel genre de situation on se fait jeter des bouteilles de verre sur la figure ?
Vrai, dans mon travail.
Donc, vous travaillez de comédien ?
Ouais, mais c'est-à-dire, en fait, moi je suis comédien. Des fois on m'embauche pour être comédien, donc je suis aussi comédien, c'est mon travail actuel, c'est vrai, j'étais formé pour ça. Mais j'ai aussi mes projets à moi, et puis mes projets sont pas forcément des projets de comédien comme on l'entend, mais évidemment c'est un peu du travail théâtral. Mais c'est-à-dire là par exemple, je travaille avec un ami Thomas Mardel, qui écoute là maintenant, je pense, dans ma cuisine. Salut Thomas. Et en fait, on est en train de travailler par exemple sur une installation sonore. En fait, on fait du son dans un camion. On a vissé un piano dans un camion, puis quand on roule, le piano se met à jouer. Puis là, on est en train de récolter des sons. En fait, en ce moment, ça fait 3 semaines qu'on est en train de faire des enregistrements.
C'est votre projet piano-camion, c'est ça ?
Exactement.
Que vous
c'est une déviation du projet piano-camion.
Qui a déjà existé et qui a tourné par ici.
Ouais, voilà, exactement.
Maxime Gorbatchevski, Une petite devinette sur vous, sur votre parcours pour Sandra Corolle. Quel est le nom du village où Maxime a grandi ? Dans les Hautes-Pyrénées, vous avez une idée ? On teste votre géographie, Sandra.
Oui, alors là, c'est vraiment l'immense point faible.
C'est hyper chagueule.
Je suis désolée.
Maxime, ça s'appelle
Navré. Pas non plus.
Bagnères de Bigorre.
Exactement.
Mais Bagnères de Bigorre, c'est un sacré nom, ça.
Ouais, je suis bigourdant, du coup.
Bigourdant ?
Et ouais, voilà.
Et vous portez des bigoudis là-bas ? Non, c'est un peu facile.
Non.
Non, une enfance là-bas, proche de Tarbes, c'est les Hautes-Pyrénées.
Oui.
Ça ressemble à quoi comme enfance ?
En fait, voilà, je suis bigourdant, mais en fait, moi, j'ai une famille plutôt russe. Mais du coup, j'ai grandi en Bigorre, en fait, effectivement.
C'est... Mais vous parliez russe à la maison ?
Non, je parle pas russe, malheureusement.
Mais mes qu'est-ce que vous avez de russe en vous, Maxime Gorbatchevski ? Pour le coup, ça vaut la peine de répéter votre nom de famille.
Bah, mes deux parents sont émigrés russes, en fait, de famille émigrée, voilà. Puis ma grand-mère, ma maison de vacances quand j'étais enfant, ma grand-mère, ma tante parlaient russe à la maison. Parler russe entre eux.
Donc vous comprenez quelques mots.
Surtout, je parle aux chiens en russe parce qu'en fait, c'est surtout ça que j'ai appris par ma grand-mère parce que elle parlait aux il y avait des chiens, des animaux chez elle et puis on parle aux chiens en russe encore aujourd'hui. Mais elle est partie, ma tante est partie, du coup, il y a plus personne vraiment qui parle russe autour de moi. Mais cette maison existe encore, donc il y a encore un peu des Russes qui passent de temps en temps. Mais
donc en fait,
le voilà. Russe c'est ça, mais en fait, en vrai, je me sens beaucoup plus des Hautes-Pyrénées concrètement. J'ai grandi
vous
là-bas.
Avez ce petit accent qu'on entend encore.
On entend l'accent un peu.
Ouais. Ouais. Vous en pensez quoi, Sandra Corolle, de ce petit accent ? Vous l'aviez repéré aussi ?
Oui, oui. J'adore.
C'est assez chantant, hein ?
Oui, c'est génial.
Vous essayez de le gommer ou pas ?
Non, non. Mais en fait, j'ai vraiment pas un gros accent par rapport à mes amis qui sont de là-bas, dont les ancêtres sont de là-bas. C'est clair que moi, mes parents viennent pas de là-bas, donc j'ai pas l'accent fort, fort, mais je sais pas le gommer, non.
Bah, gardez-le. C'est mieux comme ça. On va écouter Les mots justes de Céline Olivier. Et c'est un choix de Jean-Baptiste Romance pour vous, Sandra Corolle. C'est parti.
Quand je pense que je ne sais pas comment. Le dire autrement, l'âge n'est que des larmes. Je savais, et ce il y a bien longtemps, me soulager autrement, l'âge n'est que des larmes. Dire.
Céline Olivier sur la première. On prend tout de suite des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Prudence si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Genève. On signale des objets sur les voies de circulation entre Nyon et Coppet en direction de Genève. Vous écoutez Premier Rendez-vous, aujourd'hui autour de la table, Maxime Gorbatchevski, comédien, ainsi que Sandra Corolle, coach et hypnothérapeute. Cette chanson qu'on vient d'écouter de Céline Olivier, Les mots justes, elle a été choisie pour vous parce que vous aidez les autres, les humains, à trouver les mots justes, notamment dans des ateliers d'écriture. Vous êtes cette personne qui cherchait en l'autre, qui creusait l'identité pour trouver comment déjà les définir, ces gens, et comment les aider.
Oui, c'est vrai que le langage... Et les histoires sont peut-être le point commun entre mes activités, en tant que comédienne, en tant qu'auteur et en tant que thérapeute. Il y a une phrase qui dit « les mots que j'emploie sont la maison dans laquelle je vis ». Et moi, ça me touche beaucoup, c'est-à-dire qu'en fonction de... J'ai cette croyance, hein, c'est une hypothèse de base, qui me dit en fonction des mots que je vais employer la journée pour définir mon expérience, pour amener de la signification à mon expérience, bah, les mots que je vais employer... qui ont une vibration en soi, hein, vont encore plus définir mon expérience. C'est comme s'il y a un dialogue qui se crée. C'est des histoires, c'est des mythes, en fait, qu'on se raconte. Et parfois, on peut être enfermé dans un mythe. Parfois, il y a des mythes qui nous libèrent. Quand on parle de mythes familiaux, par exemple, là, on a parlé de nos origines. Dans ces mythes familiaux, il y a des bouts qui nous libèrent, il y a des bouts qui nous portent, et puis il y a des bouts qui nous enferment. Et on peut être loyal aux mythes. Et pour apprendre à redéfinir le mythe, faut comprendre que c'est un mythe et puis réapprendre le langage magique du mythe. Et ça peut se faire de plein de façons. Moi, je le fais en atelier d'écriture, en transmettant aux personnes, à des groupes, des structures de fiction qui sont aussi des structures humaines, des structures philosophiques. Et puis c'est vrai, en thérapie, en cabinet, j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup les gens et les mots qu'ils emploient et ça me donne énormément d'informations.
Alors, soyons concrets, Sandra Corolle, et parlons de vous. Donnez-nous peut-être un mythe familial que vous avez déconstruit pour mieux vous construire, justement.
Ah, c'est intéressant, ça. C'est hyper intime aussi. Je dirais un mythe en déconstruction. L'exil. Quand il y a des familles comme ça qui décident de partir d'un pays, d'aller dans un autre en fonction, je sais pas, d'un danger qui est là ou d'espoir, hein, l'espoir que ailleurs sera meilleur qu'ici, en fait. Moi, je trouve que ça peut imprégner les générations suivantes d'une idée qu'ailleurs sera mieux qu'ici. Et puis le ailleurs, il peut être tout petit. Mon corps différemment, je m'y sentirai mieux.
Donc c'est toujours... votre travail sur la transidentité dont vous parlez là, par
non exemple. Pas forcément. Alors c'est vrai que la transidentité, c'est quelque chose qui m'a ça a été un des sujets d'une des pièces de théâtre. Comment on se sent à l'intérieur du corps, qu'est-ce que c'est que le genre, à quoi je m'identifie, qu'est-ce qui fait que je ressens quelque chose à l'intérieur, je me regarde à l'extérieur, on me donne un miroir de moi-même, je m'y reconnais pas, et qui suis-je au milieu de tout ça? Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'assez précis. Puis une pièce sur la transidentité pour le jeune public, c'était aussi écrire une histoire pour des personnes qui n'ont pas d'histoire, parce que on ne doit pas en parler au théâtre, surtout pour le jeune public, de sujets comme ça. Il y a des choses qu'on ne touche pas. Puis moi, j'ai voulu offrir des histoires aux gens qui n'en ont pas, en fait. Donc non, c'est plus large que ça. C'est se dire... Ouais, l'exil, est-ce que je suis pas moi-même en exil encore dans ma propre vie, à espérer un lendemain meilleur, à espérer d'être plus performant?
Parce qu'avoir trop d'espoir, ou des projets ambitieux, ou des rêves comme ça, c'est être en exil pour vous?
Mais ça dépend, qu'est-ce que c'est qu'un projet ambitieux? C'est quoi le succès? Qu'est-ce qui dit qu'en ce moment, je suis pas en plein succès ou en plein échec? Qu'est-ce que c'est l'échec? Est-ce qu'un échec est un échec? C'est la signification qu'on donne aux choses qui détermine si c'est un échec ou un succès. Si cette chose-là est un succès, je vais devenir complètement attachée à ce truc-là et je vais essayer de le reproduire et l'augmenter. Et ce truc-là, il reste à l'extérieur de moi. Donc je peux, oui, je pense, me faire prendre dans quelque chose qui me met d'un coup en exil de ma nature véritable et qui m'enferme dans un personnage. Et à partir du moment où je suis enfermée dans le mythe de mon personnage...
Mais quel personnage avez-vous dû abandonner? Quelque chose de concret? Vous avez dû abandonner peut-être un vous comédien, un vous...
Oui, je pense, certainement un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu, un besoin d'être accueilli, accepté pour une particularité, pour des particularités, pour des antennes, pour... Voilà. Et c'est vrai qu'il y a certainement une partie de mon parcours de comédienne qui a servi à ça et qui maintenant s'éloigne
Mais qui s'éloigne avec plaisir, on dirait.
Ouais, ouais, carrément.
Vous êtes plus légère, non?
Oui, ouais, bien
sûr. C'est chouette pour vous. Ben, Maxime Gorbatchevski, vous êtes comédien et vous êtes en plein dedans. Vous sortez tout juste de formation. Oui. On vous voit dans un film qui passera ce soir sur RTS1 à 20h10, qui s'appelle Mathieu. Prénom Mathieu. De point Mathieu. Ouais. C'est donc l'histoire d'un rescapé des griffes du sadique de Romont. On en écoute un extrait tout de suite sur la première.
J'étais attaché là. Là, il y avait la voiture, je voyais le toit. Là, il y avait les roseaux. C'est quand il m'a tapé dessus que ça s'est défait. J'ai pas essayé de m'enfuir tout de suite parce que je savais que ça servirait à rien. J'ai pu bouger, j'ai fait le mort, mais ça servait à rien parce qu'à chaque fois qu'il me tapait, je criais. Il s'énervait, il contrôlait plus rien. Il comprenait plus. Du coup, quand il est retourné à la voiture, après qu'il a pas pu me foutre le feu, j'ai compris que j'avais une chance.
Voilà, l'atmosphère plutôt pesante hein, de ce film. Prénom Mathieu. Ce film de Lionel Bayer, issu de la série Ondes de choc, qui sont donc des films de Ursula Meyer, Jean-Stéphane Bron et Frédéric Mermoux, et Lionel Bayer, voilà le film dans lequel vous jouez et qu'on verra ce soir sur RTS1. Qu'est-ce que ça, comment on fait pour se mettre dans la peau d'un personnage comme ça qui a été violé, tabassé, laissé pour mort, et puis qui finalement essaye de retrouver un chemin vers la lumière, vers la vie.
Pour se mettre dans la peau, déjà. C'était compliqué parce qu'en fait, effectivement, moi, j'ai pas vécu ça, donc je suis pas dans la peau. Je peux pas être dans la peau de cette personne qui a vécu ça. Donc, moi, j'ai un texte et je dis le texte, et puis des choses me rejoignent dans le travail de situation, de ce que moi je vis, Maxime, en disant ce texte, en me mettant dans des situations, dans les scènes du film. Mais je me mets, effectivement, je suis dans la peau d'un personnage, mais c'est compliqué, hein, surtout là pour ce film-là. Je veux dire, c'est vraiment. En fait, à chaque fois, chaque expérience de théâtre ou de cinéma, selon les rôles qui me sont donnés, il y a une manière différente à chaque fois de rentrer dedans. Des fois, on est hanté, enfin, personnellement, en fait, donc je veux dire je.
Et vous avez été hanté par ce personnage-là? Ça vous a.
J'étais beaucoup anxieux avant.
Pourquoi?
Parce que.
C'était trop de violence?
Bah, c'est-à-dire, en fait, c'est je pense, la peur. Je prévoyais que ça allait être dur, quoi, à tourner. Puis c'était une expérience que j'avais pas encore vécue, d'avoir un rôle comme ça dans un film. Et puis le sujet lui-même, comment pas faire de tort à cette histoire qui a vraiment existé. Mais j'étais anxieux beaucoup avant, ensuite pendant, en fait. J'avoue que le scénario est tellement explicite là-dessus, qu'en fait, moi, ce que j'essayais de jouer n'est pas forcément... une personne violée ou une personne, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais moi, mon travail à moi, concrètement, c'est pas forcément d'essayer d'imaginer faussement ce que pourrait être ça. Il peut y avoir du sourire, il peut y avoir du rire. C'est les jours d'après, en fait, le film. Cette chose-là. Donc c'est pas pendant, c'est après. Donc c'est comment une personne, donc là, en l'occurrence, Mathieu, revient à la vie normale. Et donc,
C'est vrai, ouais. Ça, on se rend compte du drame, ben voilà, c'est la source, c'est la base du film, mais finalement ce qu'on voit dans le film c'est surtout après. Oui. C'est la réaction de la famille, c'est la réaction du village, et c'est finalement ce stigmate que portera en fait la victime toute sa vie.
Ouais.
C'est ça?
Ouais, c'est de ça dont parle le film, ouais. C'est après, comment ça se passe après, pour revenir à la vie normale.
Mais une vie normale qui n'est plus jamais normale,
non,
hein, d'une certaine
non,
manière.
Non, plus du tout. Ouais.
Sandra Corol, est-ce qu'on arrive, enfin avec... vos outils de coach, de psycho, pas de psychothérapeute, d'hypnothérapeute, est-ce que vous arrivez à aider les gens à se débarrasser de traumas aussi graves que ça? Est-ce que c'est possible ou pas?
Oui. Oui, j'ai eu la chance d'accompagner des personnes qui sont arrivées avec des histoires de vie vraiment traumatiques. C'est-à-dire que la trace de ce qui s'était passé il y a 10 ans, 15 ans, les influencer encore maintenant, hein. C'est le fantôme avec lequel il ou elle vivait. Et il y a des outils aujourd'hui d'une grande efficacité et d'une immense douceur. C'est pour ça qu'on les prend pas au sérieux. mais d'une immense douceur et d'une immense efficacité qui permettent en... Moi j'ai vu des trucs, moi-même j'en suis restée bouche bée, des gens qui se sont qu'ont sublimé ce qui s'est passé. Ça veut pas dire que moi je crois pas au doigt magique, hein. C'est-à-dire que le doigt magique existe. C'est-à-dire que je peux aller chez quelqu'un, il va me poser les mains et puis je vais aller mieux et d'accord. Mais ça va revenir. Pour moi, ça va revenir à un moment donné. Et quand ça revient pas, c'est quand j'ai fait quand même un travail de conscientisation. Donc, en conscientisant certaines choses, en essayant de regarder ce qu'on peut déplacer dans l'histoire, et puis en accompagnant de certains outils. Moi-même, j'ai vu j'ai assisté à des moments de sublimation qui m'ont ému jusqu'aux larmes, ouais.
Quand vous parlez de grande douceur, que ça vous fait un peu justement rire, ou que ça vous étonne vous-même, de quoi s'agit-il? C'est quoi cette grande douceur?
Ben, c'est-à-dire qu'il y a des outils qu'on peut utiliser en hypnose ou d'autres techniques comme des techniques de libération, un peu comme ça, qui ont un gros problème, c'est qu'elles sont extrêmement efficaces et elles sont tellement simples qu'à un moment donné, le mental n'y croit pas.
Bah, donnez-nous des exemples. Comment vous y prenez ?
Il y a un outil qui s'appelle l'EFT, qui s'appelle Emotional Freedom Technique, qui a l'air vraiment simplissime, c'est-à-dire que pendant qu'on le fait, la personne l'apprend en même temps. On tapote un petit peu à des points du corps. Et c'est tellement simple qu'on se dit, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir me libérer d'un truc qui me hante depuis des années en me tapotant le corps. Et en fait, ça fonctionne.
Ça paraît un petit peu étrange comme ça.
Vous voyez, c'est ça, c'est la preuve que le mental n'y croit pas. Mais oui, mais c'est normal. Si je suis hantée par une histoire depuis 40 ans, c'est pas en me tapotant le corps que je vais me libérer de cette histoire. Et c'est pas un truc de doigt magique, ça veut pas dire que ça arrive comme ça. Moi, je suis pas les personnes sur une séance, j'ai plusieurs séances avec, et puis quand on est prêt à lâcher une histoire, alors on peut faire appel à ce genre de choses. Mais et le truc, c'est que ça fonctionne.
Et finalement, c'est peut-être l'interaction avec vous. Plus que ces petites techniques qui viennent un peu en appui, j'ai l'impression. C'est finalement la personne qui veut guérir, qui vient vers vous, qui prend son trauma en charge et qui veut aller de l'avant, c'est ça?
Alors, de toute façon, hein, vous avez fait psychothérapeute, hypnothérapeute. L'hypnose, c'est le premier nom qu'on a donné à la psychothérapie. Ah oui. On appelait hypnose. Et comme tout le monde s'est dit, oh là là, ça a l'air bizarre, on a changé à psychothérapie. Ouais, la thérapie de la psyché. Donc à la base, c'était l'aide à la psyché par la suggestion hypnotique. Donc forcément que la base, c'est le lien. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut pas travailler avec n'importe qui. Parfois ça accroche, parfois ça accroche pas. Et ça, c'est important. Bien sûr que c'est le lien. Il n'empêche qu'il y a des trucs qui existent.
Bah ça, on y croit parce que vous avez un tel sourire, un tel allant pour parler de ça, quoi. Vous êtes très convaincante.
Mais le truc, c'est que je suis sceptique moi-même et je ne peux que observer et voir. Donc je dois être humble à un moment donné.
Maxime Gorbatchevski, vous en pensez quoi, vous?
J'en pense quoi
de la pratique de Sandra Corol, ouais. De l'hypnothérapie.
C'est quelque chose que je connais peu, mais j'ai été hypnotisé une fois, et c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire, en fait. Une expérience que j'aime bien. Mais après, c'est vrai que j'en pense quoi.
Mais vous êtes sensible à ça?
Ouais, je suis assez sensible à ça, ouais, carrément. Ouais, bien sûr.
Alors, on va revenir à votre univers, Maxime Gorbatchevski. On va écouter The Piano Bird, l'oiseau du piano. C'est les Doors sur la première et c'est maintenant.
Deux invités en une heure, leur premier rendez-vous. Outside my piano,
de Piano Bird sur la première, les Doors. Maxime Gorbatchevski, c'est une chanson choisie pour vous par Jean-Baptiste Roumans. Vous avez un tout petit peu évoqué ça tout à l'heure, piano camion. Vous avez imaginé c'est quoi ? C'est une sorte de performance musicale ? C'était en 2015 à la Manufacture et vous continuez cette aventure de piano camion. Qu'est-ce que vous faites avec votre piano et votre camion ?
Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est vraiment une sorte de dérive dans le travail, je dirais, des choses qui arrivent.
Vous avez un petit camion, un piano dessus, vous conduisez à travers les villes et vous allez vous produire.
On travaillait la musique avec Thomas et Arnaud, deux amis avec qui je bosse, et puis on travaillait le piano. Tout d'un coup, on a trouvé un piano cassé, on l'a ouvert, on a sorti la table d'harmonie, puis le camion était garé derrière, et c'est juste l'association des deux qui nous ont. C'est là que c'est quelque chose d'assez important pour moi dans le travail, c'est-à-dire. C'est pas les idées préconçues, c'est-à-dire on n'a pas eu l'idée de faire un piano camion, c'est-à-dire qu'en fait en voyant le camion d'un côté, le piano de l'autre, on l'a vissé, ouais. Et puis de là, on a continué à travailler, puis on a suspendu des objets, puis quand on roule, les objets se mettent à sonner dedans, puis maintenant c'est un travail qu'on développe encore. Voilà.
Et vous qui faites de la percussion, vous aimez bien les instruments, vous êtes un comédien, on va dire aussi musicien, ouais. Plutôt un musicien plus que comédien.
Non, plutôt comédien que musicien. Ouais, j'adore jouer de la musique, mais j'en joue pas très bien. Je joue de plein de choses,
modeste.
Mais très mal. Ouais.
Vous êtes modeste. Donc voilà, la musique, ça fait aussi partie de votre vie, on l'aura compris. Je vais vous demander, Maxime Gorbatchevski, ainsi que Sandra Corolle, la deuxième personne autour de la table aujourd'hui dans Premier Rendez-vous, de sortir les objets, des objets qui vous racontent et qui parlent de vous. Alors on commence avec vous Sandra Corolle, qu'est-ce que vous avez amené ? C'est une petite figurine de pierre, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une petite figurine de pierre qui elle fait 10 cm de haut, comme ça elle représente une femme du Groenland, une Groenlandaise, okay. Qui joue du tambour. Et c'est une figurine qui vient du Groenland, qui m'a été ramenée du Groenland par mon épouse, qui est partie en exploration là-bas. Et elle m'a raconté l'histoire qui va avec, et je la trouve absolument extraordinaire. Au Groenland, tout se règle en communauté. Hein, donc les Groenlandais, dès qu'ils ont un problème, que ce soit dans la communauté ou au niveau privé, ils vont régler ça ensemble. Donc par exemple, si deux personnes ont un problème, ils vont faire appel à la communauté va se réunir, et puis on va donner des tambours à chacune des personnes. Et les deux personnes vont commencer à jouer du tambour, jusqu'au moment où, autour d'eux, la communauté éclate de rire. Et le but, c'est de faire éclater de rire la communauté. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la communauté éclate de rire, ça veut dire que la souffrance contenue dans le problème qu'il y a à ces deux personnes, eh ben, elle est libérée. Et la femme qui a raconté cette histoire à mon épouse lui a dit, ben voilà, là on est dans mon magasin, il y a une route, il y a des voitures. S'il devait y avoir un accident de voiture juste devant mon magasin, mon réflexe serait d'éclater de rire. Pas pour me moquer ou humilier, mais parce qu'en éclatant de rire, je sais que je libère la souffrance qu'a généré l'accident de voiture. Et je trouve que c'est génial parce que, personnellement, dans mes ateliers d'écriture, mes ateliers d'auto-hypnose ou mes consultations, eh ben on rigole beaucoup et c'est un moment vraiment précieux quand la personne peut raconter son mythe en rigolant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été transfiguré. Donc je trouve ça génial. Donc du coup je la garde précieusement.
Elle a un petit capuchon, un petit chignon. Je peux la voir encore ?
Ouais, ouais.
La prendre dans les mains, elle est assez lourde avec son petit tam-tam, son petit tambour
en,
plutôt.
En granit comme ça, ouais.
Puis elle a l'air d'être hors de prix et encore l'étiquette de soin. Sacré cadeau.
Elle est certainement hors de prix.
Non, ça n'a pas de prix de pouvoir résoudre des conflits avec le rire.
Ouais, ça n'a pas de prix. Je crois que c'est notre job. À toutes et à tous.
Mais c'est quand même pas facile ça, d'arriver avec des problèmes gros comme des camions ou des maisons et réussir à les résoudre par le rire.
Ah, j'ai pas dit que c'était facile. C'est notre job. Et puis après, on transmet aux autres comment qu'on a fait.
Okay.
C'est ça.
Comment qu'on a fait. Ouais. Alors on garde ça. Maxime Gorbatchevski, qu'avez-vous amené comme objet ?
Moi j'ai amené une tasse réalisée par une amie avec qui je suis parti en voyage il y a longtemps de ça au Maroc.
C'est de la céramique ?
Ouais voilà, donc c'est une céramiste Charline Dupont qui est une grande amie et qui a fait un travail. On est parti au Maroc en camion. C'est moi, j'en ai un peu marre de parler des camions, mais c'est en plus à côté du film et tout dont on parle, pas tellement anecdotique. Mais du coup, ce bol, elle a ramassé la terre sur le voyage et puis elle a travaillé en roulant.
Donc elle a pris la terre au Maroc.
Elle a ramassé par terre, elle faisait les bols pendant qu'on roulait, puis on buvait dedans. Et puis ça, c'est un des bols qu'elle a conçu pendant ce voyage. Et donc c'est la terre ramassée sur ce voyage-là. Donc je sais pas si c'est de la terre d'Espagne ou du Maroc, mais en fait il y a la longitude et la latitude qui sont inscrites sur le bol.
Dessus.
Donc c'est le lieu où a été pris la terre, c'est ce lieu-là.
Elle est assez rigolote, cette petite tasse. Elle est grenat, comme ça, avec des éclats de pierre noire, mm-hmm. et des petits éclats d'or aussi. Vous avez vraiment bu du thé là-dedans, café. C'est quelque chose que vous gardez avec vous, que vous laissez dans votre cuisine, ou comment vous traitez cet objet?
J'ai pas peur de le casser, c'est le problème avec les travaux des céramistes. Quand on tient aux tasses, elles sont fines, et puis si on la met dans la cuisine, souvent elle finit par se briser. Alors j'ai mis sur une étagère dans ma chambre.
Et vous l'avez enroulée dans un magnifique foulard de soie, violet, avec des fleurs dessus, enfin des espèces de mandalas. C'est très élégant. Vous le portez, ce petit foulard, de temps à autre?
Et non, je le pose sur ma lampe de chevet. Pour
des ambiances intimistes, c'est ça?
C'est juste qu'elle est trop forte, c'est juste pour tamiser un peu.
Très bien. Ouais. Eh bien, merci pour ces objets. C'est en musique qu'on part tout de suite avec Mélissa Lavo, Angelico. Mélissa Lavo sur la première avec Angelico. Angelico, un peu comme vous, un petit ange, Sandra Carole.
Petit ange.
Non, vous parlez souvent que vous avez une personne sur votre épaule qui vous raconte des histoires, un ami imaginaire. Vous avez exploré cette thématique notamment dans une pièce pour jeune public, n'est-ce pas?
Oui, ça s'appelait Tim et les Invisibles et c'était sur l'ami imaginaire. En fait, il y a deux populations qui ont des amis imaginaires, c'est les enfants et les personnes âgées.
Ah bon?
Ah bah ouais.
Les personnes âgées.
Oui.
Tiens,
les
bon, alors là, vous me surprenez.
Oui, les enfants, c'est pour aider à des passages de seuil, notamment. Hein. Après, on discutera plus tard hors émission si ces imaginaires, si ces amis imaginaires sont vraiment imaginaires ou s'ils existent vraiment. Mais l'enfant, il va inventer un personnage imaginaire, un ami imaginaire pour être plus courageux à l'école, si, voilà, aussi à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et puis les personnes âgées, elles vont aussi expérimenter des amis imaginaires, peut-être pour faire face à la solitude ou pour le prochain passage, pour passer à l'école secondaire après la mort, j'en sais rien. Mais puis on m'avait demandé si j'avais un ami imaginaire et ouais.
Qui est un grand bonhomme.
Ouais, c'est comme un viking.
Un scandinave, non?
Ouais, c'est un viking scandinave, une espèce de mélange entre l'archange et le viking, je sais pas. Il est sympa.
Il est sympa?
Ouais,
il est
cool.
Là?
Ouais.
Il est là maintenant?
À fond. Je le prends toujours avec.
D'accord. Et Maxime Gorbatchevski, comédien, qui est avec nous autour de la table. Vous êtes un peu en arrière, comme ça, sur la chaise.
Je vous
faites
écoute.
Ça. Vous rêvez. Vous faites ça depuis un moment, d'ailleurs. Vous aimez comme ça bien prendre du recul dans les situations.
Oui.
Un peu vous retirer comme ça pour être plus dedans. C'est votre manière à vous.
Oui, peut-être. Ouais, je...
Ou bien c'est une grande timidité qui s'exprime comme ça?
Je sais pas, non, c'est beaucoup de choses. Là, l'émission, c'est vrai que tout d'un coup, je pensais le fait de... Évidemment, ce soir, il y a le film qui sort et tout, puis ça me ramène à des choses, en fait. Et du coup, je me dis, ah putain, je dis des bêtises à l'antenne. Et puis,
mais pas du tout.
En fait, on effectivement, c'est... Ça me fait penser, ouais. Je pense à ce film, tout ça.
Je vais rappeler justement le nom de ce film, c'est Prénom 2. Mathieu, un film de Lionel Bayer dans la série Onde de choc, une série donc de 4 films faits par des réalisateurs romans qui parlent de drames familiaux, de tueurs en série, de bavures policières et de dérives sectaires. En l'occurrence, là, c'était l'histoire du sadique de roman et surtout de la dernière victime de ce sadique qui finit par s'en sortir, et c'est vous qui jouez ce rôle-là. Un rôle lourd et dont on vous parle beaucoup, Maxime Gorbatchevski.
Oui,
ça vous suit un peu. Hein. Les romans qui vous croisent, les personnes de la région.
C'est particulier parce que, effectivement, moi qui viens des Hautes-Pyrénées, c'est pas un fait divers dont j'avais entendu parler beaucoup avant d'arriver
en
Suisse, avant même de faire le film. Mmh. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait le film, en fait, c'est aussi après coup que je me rends compte de ce que ça représente ici, géographiquement, en fait. Parce qu'en fait, beaucoup de gens me parlent maintenant que j'ai fait ce film et me racontent leur histoire par rapport à ce fait divers, en fait. Et
donc, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque, comment ça les a marqués.
Ils connaissaient telle personne, ils étaient proches de telle ou telle. Mmh. Et du coup, il y a effectivement quelque chose qui se passe encore 2 ans après le tournage de ce film, d'assez fort.
Et ça vous remue aussi un petit peu?
Un petit peu, ouais.
Vous nous avez confié ça pendant une chanson.
Ah oui.
On va jouer au Qui a dit que. Vous avez donné des interviews où on retrouve parfois des traces sur Internet de ce que vous avez dit. J'en ai sorti quelques extraits et vous allez devoir vous reconnaître. Qui a dit « Je devais aller au fond de la classe et me faire oublier ».
Oh, ça c'est moi.
Oui, ouais, c'est vous. Pourquoi vous deviez aller au fond de la classe et vous faire oublier, Sandra Corolle?
Je crois que ça fait référence à mes études. Enfin, quand j'étais à l'école primaire dans le canton de Fribourg, j'ai déménagé du canton de Genève au canton de Fribourg. Et puis à Fribourg, l'éducation religieuse faisait partie des heures de classe habituelles. Mais comme j'étais pas baptisée, j'avais pas le droit de faire partie de l'éducation religieuse. J'avais pas le droit de faire partie des paraboles qu'on racontait. Donc c'est vrai que quand le curé arrivait, je devais aller au fond de la classe. Et à la fin, il racontait toujours une parabole avec Jésus, puis changer les noms. Ils disaient alors Jésus, puis il y a Pauline, puis il y a Maxime. Puis moi, je levais la main parce que je voulais faire partie des paraboles de Jésus. J'avais pas le droit.
Mais c'est quand même assez violent, ça, non?
Oui, alors carrément, c'est assez violent. Et c'est pas pour rien qu'une partie de mon métier, c'est de raconter des histoires à ceux qui n'ont pas eu le droit d'avoir des histoires.
C'est un peu comme si on vous coupait la chic, en fait. On vous a coupé le lien, on vous a pas donné la possibilité de faire partie du groupe.
Bah ouais.
Et puis là, justement, aujourd'hui, vous voulez faire groupe, vous faites groupe avec les personnes que vous aidez,
ouais.
Puis avec les comédiens et puis les pièces de théâtre que vous écrivez aussi.
Oui, absolument.
Après, vous cherchez à faire groupe.
Disons que je cherche pas, mais disons que je pense que c'est une aspiration profonde. Et puis cette expérience-là, c'est simplement... moi, je crois au fait qu'on se place un décor pour pouvoir trouver son unicité. Puis ces expériences-là m'ont permis de découvrir ce que j'avais peut-être à développer.
Finalement, ouais, un trauma qui permet d'avancer puis de faire qui vous êtes.
Mais c'est toujours, pour moi, c'est toujours un cadeau à soi-même. C'est un trauma ou autre chose, ou une problématique, derrière, il y a une petite voix qui dit « Souviens-toi. Souviens-toi, allez, réveille-toi, souviens-toi. »
Allez, une autre phrase pour la route. La Suisse, c'est qualité.
C'est moi,
vous.
Ça?
Oui, c'est vous, Maxime Gorbatchevski. La Suisse, c'est qualité.
J'ai dit ça dans quel contexte?
Ben, un contexte téléphonique.
Ah, oui. Mais je me souviens plus pourquoi j'ai dit ça.
Parce que vous disiez qu'en Suisse, c'était facile de faire du théâtre par rapport à ailleurs. D'une certaine manière, ouais. Que c'était plus facile qu'ailleurs. Qu'il y avait des moyens, qu'il y avait des bourses, qu'il y avait du temps, de l'attention, des profs merveilleux, des structures.
Ah, d'accord, oui, par rapport à la manufacture, entre autres, par exemple, peut-être que je disais ça par rapport à l'école que j'ai fait ici. Où je
la Suisse,
que
c'est une école qualité.
De qualité. Ouais, bien sûr. Et ouais.
Vous êtes très heureux d'avoir pu, en guillemets, goûter à la Suisse pour vous former.
Ouais, très. C'était vraiment une école de qualité. Ouais, je pense. Mais malgré tout, oui, la Suisse est un pays de qualité, je pense.
On gardera ça. Et à Maxime Gorbatchevski, de qualité. Alors, qui a dit « Je me donne rendez-vous dans le futur » ?
Sandra ?
Moi, je pense que c'est moi.
C'est vous dans Vertigo le 13 novembre 2012.
Oh là là, mais ça ne va pas mieux, hein ? Je racontais déjà ces choses-là. En combien ? Quelle année ?
C'était en 2012.
Il y a 6 ans.
Je me donne rendez-vous dans le futur. Vous disiez ça parce que ça vous aidait des fois à surmonter des moments difficiles. Vous disiez, je me vois dans le futur, je me vois victorieuse, puis après ça m'aide à aller bien dans le présent.
Ouais. Je fais ça depuis toute petite. Quand c'est difficile, je me donne rendez-vous dans le futur. Je me dis, à un moment donné, tu seras là. Et quand tu seras là-bas et t'auras dépassé cette difficulté, reviens te voir dans le passé. Pour te dire, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Alors ça donne lieu à plein de coïncidences étonnantes, parce que d'un coup, c'est comme si on se rencontre soi-même en se disant, oh, mais ça je l'ai déjà vécu. On se dit, ah oui, mais c'était moi qui me suis donné rendez-vous. Donc je voyage dans le temps un tout petit peu. Ça va, on va loin. Hein.
Ouais, on va loin.
Parce que ça va donner ensuite. Qu'est-ce qui va se passer avec moi ensuite?
Quel est votre projet, Sandra Corel? C'est quoi la suite pour vous? D'ailleurs, même en termes d'agenda, vos actualités.
Continuer les ateliers que je propose, parce que je crois que ça plaît aux gens, puis on me demande de continuer à les faire. Donc écriture, auto-hypnose, continuer à offrir un accompagnement de qualité, d'écoute. Et puis l'écriture qui va... Je suis un peu en pause écriture, là, pour savoir ce qui sort au niveau essentiel, et l'écriture qui est en train de revenir.
Alors, toutes les infos, et puis vos coordonnées... sur www.labcoaching.net.
Ouais.
C'est correct ?
Oui.
Parfait. Maxime Gorbatchevski, on vous retrouve dans des pièces de théâtre de la région, notamment au Théâtre du Jura, c'est bien ça ?
Oui.
Les dates, s'il vous plaît.
En fait, malheureusement, je ne les ai pas en tête là, c'est dans 3 semaines. Oui.
Alors, on se renseignera au Théâtre du Jura. Sinon, c'est ce soir sur RTS1, dans le film de Lionel Bayer, Mathieu, prénom, ou prénom Mathieu, dans l'autre sens. Voilà. À 20h10 sur la première. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans Premier Rendez-vous.
Merci, Pauline. Merci.
Bonjour Lucas Torrent.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, et vous-même ?
Mais ça va pas mal du tout.
Comme on dit. Aujourd'hui dans À l'abordage, on va aller, et c'est la première fois qu'on y sera, avec un reportage on a réalisé à New York, avec des fashionistas de plus de 70-80 ans.
Ah bon, on se réjouit.
Flamboyantes et un peu folles, faut le dire.
Comme vous portez votre casque, aujourd'hui ça vous fait une houppette, on pourrait croire que vous êtes sur un podium et que vous faites un...
C'est moi.
Voilà.
C'est le port du casque à la houppette.
Voilà.
C'est ma marque de fabrique.
Lucas Torrent que vous retrouvez dans À l'abordage, après le Flash Info. En régie aujourd'hui, Bastien Meucli. La programmation musicale, c'est Jean-Baptiste Roumans. Notre attaché de production, Marilyn Regard. Pour le moment, il est 15h sur la première. Belle fin de journée à vous.